franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Mathias Feckel.
Bonjour.
Le coup de pression des Wallons, ça a été utile? Ça a vraiment changé quelque chose au CETA ou ça n'a fait que brasser du vent?
Non, le texte du CETA n'a pas bougé et Paul Magnette lui-même dit qu'il s'agit d'une déclaration belgo-belge.
C'est-à-dire pas que... une virgule, souligne le Premier ministre belge Charles Michel.
Oui, mais ce qui est important, c'est que Paul Magnette a manifesté qu'il y avait un besoin de démocratie. Moi, je partage parfaitement l'idée que après des années de négociations commerciales sur toute une série de pays qui se sont fait dans l'opacité, à l'abri des regards des citoyens et souvent même des parlementaires, il y a besoin de mettre de la démocratie et de mettre de la transparence. Et c'est ça,
c'est
en réalité.
C'est un peu tard, non? Si, pourquoi maintenant?
Parce que.
Il y a eu 7 ans de négociations. La France avait dit oui. La cérémonie de signature était programmée. Si c'est si important, pourquoi c'est arrivé si tard?
La France a fait un travail démocratique depuis des années. Je suis allé plus de 20 fois devant le Parlement français. Nous avons d'ailleurs réussi à réouvrir les négociations précisément sur l'arbitrage pour nous attaquer. Nous avons été parmi les premiers à le faire à l'arbitrage qui est un scandale démocratique. Et depuis 2 ans, plus de 20 auditions parlementaires, je reçois au Quai d'Orsay les syndicats, les ONG, les élus pour leur rendre des comptes et aussi pour faire bouger les choses au niveau européen. Mais la Wallonie, de par les processus de décision européens, arrive tard parce qu'à aucun moment, pour l'instant, elle n'avait été intégrée. C'est ça le problème. Et il faut que dans les négociations commerciales, la démocratie arrive au début, parce qu'il est absolument insoutenable qu'à la fin, des parlements soient mis devant le fait accompli et puissent dire simplement oui ou non, ou alors, comme certains voudraient le faire, simplement oui ou oui. Et donc il est important dans la refondation qui va venir maintenant de la politique commerciale européenne de mettre les parlements au début du processus.
Vous, par exemple, député de la majorité puis ministre, quand avez-vous appris qu'il y avait des discussions en cours avec le Canada ?
Ah ben, moi, quand j'ai été nommé, il y a 2 ans, les discussions venaient d'être conclues. À quelques jours près,
oui.
C'était la fin des négociations.
Et député de la majorité, vous saviez qu'il y avait
Moi, j'étais pas dans la commission des affaires internationales, donc je suivais pas ça particulièrement
donc,
de près.
Donc, vous le saviez pas, comme la grande majorité de l'opinion publique française.
Mais
donc,
bien sûr.
Il y avait une opacité.
Mais c'est pour ça qu'il faut, dans la refondation de la politique commerciale européenne, mettre les parlements au début. J'ai déjà fait des propositions là-dessus. Vous savez qu'aux États-Unis, les parlementaires ont le droit d'être dans le tour de table de négociation pour être informés. Je me suis battu pour que les parlementaires aient accès aux documents de négociation. C'est vrai pour le TAFTA maintenant, où ils ont enfin accès à cela. Je me suis attaqué à l'arbitrage qui permet d'attaquer les États, précisément parce que après 30 années de dérégulation néolibérale, il y a besoin d'un retour de la démocratie et d'un retour de la puissance publique dans les négociations économiques internationales.
Une telle opacité sur une aussi longue période pour un sujet qui concerne autant de monde, forcément, ça laisse croire qu'il y a derrière ça des intérêts cachés ou inavouables, Mathias Feckel, même si votre combat est louable.
Bien sûr.
Et donc, il y a des intérêts cachés ou inavouables.
Non. Maintenant, le texte est entièrement en ligne, le texte tel qu'il est validé. Ce qui est important, c'est que les négociations le soient aussi. Je suis favorable à ce que sur les négos commerciales, on puisse faire de l'open data. C'est-à-dire que les citoyens aient accès à tout, en temps réel, en ligne. Tout ce qui est caché ne doit pas être négocié, parce que c'est pas avouable, et tout ce qui est négocié doit parfaitement pouvoir s'assumer.
C'est-à-dire le contraire qui a été fait jusqu'à présent.
Mais bien sûr.
Alors ça profite à qui, s'il n'y a pas d'intérêt caché? S'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Êtes-vous certain que le jeu en vaut la chandelle, que quelques marchés gagnés au Canada valent des protections qui sautent, des concurrences nouvelles, des normes qui pourraient être tirées vers le bas?
Quelles normes et quelles protections sauteraient?
Il y a un processus qui est prévu dans le traité de convergence, processus de convergence des normes.
Et pourquoi, selon vous, la convergence des normes avec un pays comme le Canada tirerait nécessairement les choses vers le bas? Le Canada, pour nous, est un partenaire équivalent à la Roumanie, à la Thaïlande. Donc vous voyez, c'est pas demain un marché qui va venir submerger les marchés européens. Je veux dire, il faut quand même qu'on soit...
Non, les normes, ça peut être des normes alimentaires, environnementales.
Mais il est précisément écrit que les États... Et on s'est battu là-dessus. Les États conservent le droit à réguler, c'est-à-dire que les normes ne peuvent pas être attaquées. On s'est battu pour que l'agriculture soit défendue. Et jamais dans un accord commercial, l'agriculture a été aussi bien défendue qu'avec le Canada, notamment sur les indications géographiques, nos appellations, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs. Tout cela est très positif. Et quand je dis le CETA, c'est le contraire du TAFTA. Pourquoi ? Parce que nous avons obtenu un accès au marché public canadien, que nous avons obtenu une défense de notre agriculture, et précisément parce que nous avons obtenu pour la première fois que l'on s'attaque à l'arbitrage privé pour le remplacer par des règles publiques, par des règles transparentes et par de la déontologie. C'est la première fois pendant des années que cela arrive. Et donc, quand des choses sont positives, il faut le dire. Il faut que l'Europe... Moi, je rêve d'une Europe qui s'affirme sur la scène internationale, qui fasse entendre sa voix, qui participe à la définition de règles élevées au lieu de se laisser imposer. Lorsque c'est le cas, il faut le dire. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut le dénoncer. Et j'ai été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur le TAFTA, où précisément, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire mépris de l'agriculture européenne et française, c'est-à-dire absence de réciprocité totale, c'est-à-dire refus des États-Unis de mettre des règles dans la mondialisation. Et donc, il faut regarder le fond des choses à chaque fois. Et la ligne rouge, c'est la démocratie, c'est la transparence, et ce sont les règles que nous réussissons à imposer ou non.
Donc, je reviens à ma question. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des études d'impact qui ont été réalisées pour savoir quel effet économique ça produira? Parce que forcément, par nature, le libre-échange produit des perdants, des exclus, des emplois qui sont détruit.
Bien sûr, moi je suis élu du Lot-et-Garonne, dans lequel je peux vous dire qu'on a payé un lourd tribut à la mondialisation dite heureuse, avec de la désindustrialisation, avec de la crise agricole, plus de 70 productions agricoles différentes. Mais c'est aussi un département qui tire sa force dans un certain nombre de secteurs, précisément de notre capacité à exporter dans l'aéronautique, dans l'agroalimentaire. Donc il faut regarder ce qu'est la France aujourd'hui. Il faut arrêter de croire au dogme disant la mondialisation ne fait que des gagnants. Ça, pendant 30 ans, on nous a seriné ça, c'est totalement faux. On voit bien que la désindustrialisation est à la clé, qu'il y a des suppressions de règles qui ont fait que des salaires ont pu être tirés vers le bas. Et donc, il faut le retour de la puissance publique, le retour des règles dans la mondialisation. C'est le combat de la France et c'est le combat de l'Europe que de se battre pour cela. Et à chaque fois que ce type de victoires sont au rendez-vous, il faut le dire. Pour répondre clairement à votre question, si vous pensez que notre agriculture demain va s'en sortir en arrêtant d'exporter, alors que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est en fonction des années le deuxième ou le troisième excédent commercial français. Si vous pensez que la France va aller mieux en arrêtant d'exporter des Airbus, non. Ce qu'il faut, c'est cibler la mondialisation. Il y a un certain nombre d'échanges qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens d'importer et d'exporter des produits qui sont strictement identiques. En revanche, ça a du sens de se battre pour des règles et pour une mondialisation qui respecte la démocratie.
Réguler donc, mais sans dresser des barrières, sans rétablir des frontières, sans revenir à des solutions purement protectionniste, c'est ça votre credo?
Il y a besoin de réciprocité. Il y a besoin de réciprocité. Ce que l'Europe donne, elle doit le recevoir en échange. Et pendant trop longtemps, elle a appliqué naïvement des dogmes néolibéraux en disant c'est formidable, si on applique tout ce que dit Friedman et Hayek, il va y avoir le retour de la croissance. On voit bien que c'est faux. Et on voit bien que ça ne marche pas.
Alors, dogme néolibéraux, c'est la deuxième fois depuis le début de cet entretien que vous utilisez l'expression.
Parce que c'est très marquant. C'est très
Mathias
Fekl, c'est très marquant de voir.
Il y a un mois, vous avez lancé votre propre mouvement Movida, mouvement pour la vie des idées, les alternatives, avec pour objectif porter la gauche de demain. Et vous avez dit, lors du lancement de ce mouvement, que vous rêviez que la gauche reprenne le pouvoir après 30 ans de néolibéralisme.
Mais oui.
Dernier quinquennat compris.
Non, mais jusque assez loin dans la social-démocratie européenne, ces dogmes-là, cette contrainte a été intégrée en disant, après tout, il faut accompagner le marché et c'est ça le rôle de la gauche. Non, moi je crois pas ça. Je crois que la gauche, c'est de dire qu'il y a toujours des alternatives, que la politique, c'est la capacité à faire des choix et à avoir une puissance
publique. Ça répond pas à ma question.
Si, parce que...
30 ans de néolibéralisme...
Non, mais je sais bien que la presse, depuis le début, considère que tout ce qui se fait dans ce quinquennat est mauvais, mais quand...
Mais pas de la presse, là. Je vous parle de vous, de votre expression, de votre déclaration.
Je vais vous dire très clairement, quand il y a une revalorisation des petites retraites agricoles comme il n'y en a jamais eu depuis 10 ans. C'est clairement qu'il y a la possibilité d'alternative. Quand il y a un combat pour la médecine pour tous avec le tiers payant, ça me semble
donc
pas particulièrement
néolibéral. Donc les trois décennies de néolibéralisme se sont achevées quand...
Bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça.
Ah bon.
Mais ça, c'est la magie de la Ve République que de penser que parce qu'on élit un nouveau président, tous les problèmes vont être réglés comme le roi guérissait des écrouelles.
Vous êtes partisan d'une nouvelle République.
Parce que ça ne marche pas comme ça. Et cette pensée magique fait beaucoup de mal à la vie politique française. Parce que penser que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, on va régler le problème comme ça d'un coup de baguette magique, on voit bien que ça ne fonctionne pas.
On va revenir éventuellement sur vos positions institutionnelles. Mathias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, invité de France Inter, il est 8h30.